Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Sept bardos et autres réalités. Suite. Autres réalités. J'ai dit que les bardos sont des opportunités, mais qu'ont-ils de particulier pour nous permettre ainsi d'utiliser les occasions qu'ils nous offrent? La réponse est simple. Ce sont tous différents états et différentes réalités de l'esprit. L'entraînement bouddhiste nous prépare, par la méditation, à découvrir avec précision les divers aspects de l'esprit dans leurs interactions et à pénétrer avec habileté dans les différents niveaux de conscience. Il existe une relation claire et précise entre les états du bardo et les niveaux de conscience dont nous faisons l'expérience tout au long du cycle de la vie et de la mort. Quand nous passons d'un bardo à l'autre, que ce soit dans la vie ou dans la mort, il se produit un changement correspondant dans notre conscience. La pratique spirituelle nous permet d'acquérir une connaissance intime de ces changements pour finalement les comprendre pleinement. Le processus qui se déroule pendant les bardos de la mort étant inscrit dans les profondeurs de notre esprit, il se manifeste également à plusieurs niveaux pendant la vie. Il existe par exemple une correspondance frappante entre d'une part les degrés subtils de conscience que nous traversons durant le sommeil et les rêves, et d'autre part les trois bardos associés à la mort. L'endormissement est semblable au bardo du moment précédant la mort, pendant lequel les éléments et les processus de pensée se dissolvent, aboutissant à l'expérience de la lumière fondamentale, de la luminosité fondamentale. L'état de rêve est apparenté au bardo du devenir. L'état intermédiaire où l'on possède un corps mental clairvoyant et extrêmement mobile qui traverse toutes sortes d'expériences. Dans l'état de rêve, nous avons aussi un corps analogue, le corps de rêve, avec lequel nous vivons toutes les expériences de la vie onirique. Entre le bardo du moment précédant la mort et le bardo du devenir, se situe un état très particulier de luminosité ou claire lumière, appelé, comme il est dit plus haut, le bardo de la Dharmata. Tout le monde le traverse, mais très peu parviennent, ne serait-ce qu'à le remarquer, sans parler d'en faire pleinement l'expérience. Car il ne peut être reconnu que par un pratiquant accompli. Ce bardo correspond à la période qui se situe entre l'endormissement et le début de l'état de rêve. Bien sûr, les bardos de la mort sont des états de conscience beaucoup plus profonds et des moments bien plus intenses que les états de sommeil et de rêve. Mais leur niveau relatif de subtilité se correspondent. Ils indiquent le type de lien et de parallèle existant entre les différents niveaux de conscience. Pour montrer combien il est difficile de garder une conscience éveillée durant les états du bardo, les maîtres emploient souvent la comparaison suivante. Combien d'entre nous sont capables de percevoir le changement de leur état de conscience au moment de leur endormissement ou la période de sommeil avant le début des rêves? Combien d'entre nous sont conscients qu'ils rêvent au moment même où le rêve se déroule? Imaginez alors combien il nous sera difficile de rester conscient dans le tumulte des bardos de la mort. L'attitude de votre esprit dans l'état de sommeil et de rêve indique la manière dont il se comportera dans les états correspondants du bardo. La façon dont vous réagissez aujourd'hui aux rêves, aux cauchemars et aux difficultés vous montre, par exemple, comment vous pourriez réagir après votre mort. C'est pourquoi le yoga du sommeil et des rêves joue un rôle si important dans la préparation à la mort. Un vrai pratiquant s'efforce de conserver, tout au long du jour et de la nuit, une conscience claire, inaltérable et ininterrompue de la nature de l'esprit. Il utilisera ainsi directement les différentes phases du sommeil et du rêve pour reconnaître et se familiariser avec ce qui surviendra dans le bardo du moment précédant la mort et les suivants. Ainsi, deux autres bardos se trouvent souvent inclus dans le bardo de cette vie. Le bardo du sommeil et des rêves et le bardo de la méditation. La méditation est la pratique du jour. Et le yoga du sommeil et des rêves, la pratique de la nuit. Dans la tradition à laquelle appartient le livre des morts tibétain, ces deux bardos sont ajoutés aux quatre bardos, formant ainsi une série de six bardos. La vie et la mort dans la paume de la main. Il existe pour chaque bardo un ensemble spécifique d'instructions et de pratiques méditatives qui correspond avec précision aux réalités et aux états d'esprit particuliers de ce bardo. C'est ainsi que les pratiques et l'entraînement spirituel élaborés pour chacun des états du bardo peuvent nous permettre d'utiliser au mieux ces états, ainsi que les occasions de libération qu'ils nous offrent. Au sujet des bardos, nous devons comprendre le point essentiel suivant. Si nous suivons ces pratiques, il est effectivement possible de réaliser ces états d'esprit tant que nous sommes en vie. Nous pouvons bel et bien en faire l'expérience, ici et maintenant. Il peut sembler difficile à un occidental de concevoir une maîtrise si totale des différentes dimensions de l'esprit. Pourtant, elle n'est en aucune façon impossible à atteindre. Khönü Lama Tenzin Gyaltsen était un maître accompli, originaire de la région himalayenne du nord de l'Inde. Dans sa jeunesse, il rencontra au Sikkim un lama qui lui conseilla de se rendre au Tibet afin d'y poursuivre son étude du bouddhisme. Il se rendit donc dans la province du Kham, au Tibet oriental, où il reçut les enseignements de quelques-uns des plus grands lamas, y compris de mon maître, Jamyang Khyentse. Sa connaissance du sanskrit lui gagna le respect de tous et lui ouvrit de nombreuses portes. Les maîtres étaient très désireux de lui donner leur enseignement, dans l'espoir qu'il le rapporterait en Inde et le transmettrait. Il savait en effet que ses enseignements avaient presque totalement disparu du pays. Durant son séjour au Tibet, Khönü Lama acquit une érudition et une réalisation exceptionnelles. Il retourna finalement en Inde et y vécut un véritable ascète. Lorsque mon maître et moi nous rendîmes en pèlerinage en Inde, après avoir quitté le Tibet, nous le cherchâmes dans tout Bénarès. Nous le trouvâmes finalement dans un temple hindou où il demeurait. Nul ne savait qui il était, ni même qu'il était bouddhiste, encore moins que c'était un maître. On le considérait comme un doux et saint yogi, et on lui offrait de la nourriture. Chaque fois que je pense à lui, je me dis: c'est ainsi que devait être saint François d'Assise. Lorsque les premiers moines et lamas tibétains arrivèrent en exil, Khönü Lama fut désigné pour leur enseigner la grammaire et le sanskrit dans une école fondée par le Dalai Lama. Beaucoup de lamas très érudits fréquentèrent cette école et étudièrent avec lui, et tous le considérait comme un excellent professeur de langue. Et puis, un jour, il se trouva quelqu'un pour lui poser une question concernant l'enseignement du Bouddha. La réponse qu'il donna fut extrêmement profonde. Ils continuèrent alors à l'interroger et s'aperçurent qu'il connaissait la réponse à toutes les questions qui lui étaient posées. Il pouvait, en fait, donner l'enseignement qu'on lui demandait, quel qu'il fût. Sa réputation s'étendit très loin. Il se retrouva bientôt à enseigner aux membres des différentes écoles leur propre tradition spécifique. Sa sainteté, le Dalai Lama, le choisit alors comme un guide spirituel. Il reconnut que Khonul Lama était l'inspiration de son enseignement et de sa pratique de la compassion. À dire vrai, il était la compassion personnifiée. Pourtant, même quand il devint célèbre, il ne changea rien. Il ne changea en rien. Il continuait à porter les mêmes vieux habits et vivait dans une seule petite pièce. Lorsque quelqu'un venait le voir, il lui offrait un présent. Il en faisait cadeau aux visiteurs suivants. Si on lui préparait un repas, il mangeait. Sinon, il s'en passait. Un jour, un maître que je connais bien rendit visite à Khonul Lama afin de lui poser quelques questions relatives au bardo. Ce maître est un professeur extrêmement versé dans la tradition du livre des morts tibétains et possède une grande expérience des pratiques qui s'y rattachent. Il me raconta comment, après avoir posé ses questions, il en écouta les réponses. Subjugué. De sa vie, jamais il n'avait rien entendu de semblable. Lorsque Khonul Lama parlait des bardos, sa description était si précise, si saisissante, qu'on aurait dit qu'il expliquait à quelqu'un comment se rendre à Kensington, à 8th Street, à Central Park, ou aux Champs-Élysées. Il donnait l'impression de s'y trouver véritablement. Khonul Lama décrivait directement les bardos à partir de sa propre expérience. Un pratiquant de son envergure a parcouru toutes les différentes dimensions de la réalité. Et si les états du bardo peuvent être révélés et libérés grâce aux pratiques qui lui sont rattachées, c'est parce qu'ils sont entièrement contenus au sein de notre esprit. Les enseignements sur les bardo proviennent de l'esprit de sagesse des Bouddhas, qui peuvent voir la vie et la mort aussi facilement que la paume de leurs mains. Nous sommes aussi des Bouddhas. Par conséquent, si nous pratiquons pendant le bardo de cette vie et explorons de plus en plus profondément la nature de notre esprit, nous pourrons pénétrer cette connaissance des bardos et la vérité des enseignements se déploiera alors spontanément en nous. C'est pourquoi le bardo naturel de cette vie est d'une importance extrême. C'est ici et maintenant que s'effectue la préparation complète à tous les bardos. La manière suprême de se préparer, est-il dit, a lieu maintenant. C'est d'atteindre l'éveil. Dans cette vie même. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort, par Sogyal Rinpoche. Fin de ce 7e chapitre, Bardo et autres réalités. Prochaine émission, 8e chapitre, le bardo naturel de cette vie. Merci et à bientôt dans la 4e dimension.